Il est 18h30 à Paris et on retrouve Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans 30 minutes RFI Soir, on va jeter un coup d'œil au programme de ce lundi. Après le journal de Sophie Pouzrat, nous ferons le point sur ce qui a changé à Fukushima. C'était il y a 13 ans jour pour jour, la centrale japonaise était touchée par un énorme tsunami provoquant l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Quid du démantèlement? Quid du retour des habitants? Tous les détails à suivre. La France qui ouvre la possibilité d'une aide à mourir. Emmanuel Macron tranche le débat sur la fin de vie. Le chef de l'État dévoile le futur projet de loi. Dans un entretien, nous serons avec l'un des journalistes de La Croix qui a reçu la parole du président de la République. Notre question d'environnement ce soir, notre planète est-elle en train de changer d'époque? 19h30 dans une heure Afrique Soir, la première édition. Mais d'abord, place au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et en France, c'est le salaire minimum qui fait débat, le fameux SMIC, instauré il y a plus de 50 ans. Il faut désmicardiser la France, avait déclaré lors de sa politique de déclaration de politique générale Gabriel Attal, le Premier ministre. Alors le SMIC est-il un boulet, très souvent augmenté, trop souvent diront certains d'ailleurs, à 8 reprises depuis 2021. Ce qui bloque les hausses des autres salaires révèle une récente enquête. Faut-il maintenir un salaire minimum? Voilà la question qu'on pose ce soir. Comment cela se passe-t-il ailleurs en Europe? Comment sortir du carcan du SMIC tout en protégeant les salaires? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio. Anne Edou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence d'économie au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, membre des économistes atterrés. Face à vous, Clément Carbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'économie à l'Université Paris 8, co-directeur de l'Axe politique socio-fiscale du LIEP, qui est le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Et enfin, Olivier Redoulez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études de l'Institut d'études économiques Rexecode qui a co-réalisé l'enquête que j'évoquais. J'aurais commencé avec vous justement, Olivier Redoulez, simplement en quelques chiffres, ce qu'il faut savoir sur le salaire minimum en France, il s'élève à combien, combien de personnes en bénéficient pour avoir un premier aperçu général de la situation?
Alors, le SMIC brut, celui qui figure sur la fiche de paie, il est autour de 1760 euros par mois. Pour un temps complet. Net, on est plutôt autour de 1400 euros, donc après déduction des cotisations et contributions sociales salariées. Et au 1er janvier 2023, il concernait à peu près 17,3% des salariés, soit un peu plus de 3 millions de personnes.
Il n'y a jamais eu autant de personnes au SMIC en France?
Il y en a eu presque autant en 2005, autour de 16,3%, après un certain nombre de mesures de revalorisation qui avaient accompagné la mise en place des 35 heures.
Clément Carbonnier, pourquoi il n'y a jamais eu autant de smicards? Alors, encore une fois, smicard, c'est un terme qui, peut-être pour nos auditeurs, est un barbarisme, de personnes qui perçoivent un salaire minimum.
Parce que les salaires baissent. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, et contrairement à 2005, c'est que le SMIC n'a pas augmenté. C'est-à-dire qu'en valeur réelle, le SMIC n'a pas augmenté depuis 12 ans. Il est indexé sur l'inflation, donc quand l'ensemble des prix augmente, quand la monnaie se dévalue, on indexe le SMIC, mais le SMIC, en valeur réelle, en pouvoir d'achat, n'a pas augmenté depuis 12 ans. Donc, si on a cette augmentation aujourd'hui, contrairement à 2005, c'est parce que les autres, c'est pas que le SMIC a augmenté et rattrapé les salaires, c'est que les autres salaires ont augmenté moins que l'inflation, et donc en fait ont diminué en valeur réelle, et donc se sont rapprochés du SMIC. Donc, le point important sur cette question de smicardisation, je pense que c'est vraiment d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que c'est pas le SMIC qui a augmenté très fortement et qui a rattrapé les salaires, c'est on est vraiment dans une situation où les salaires baissent. Et où, d'une certaine manière, le SMIC, il est là en protection. C'est-à-dire que les salaires auraient pu baisser encore plus s'il n'y avait pas le SMIC.
C'est pas qu'ils baissent, c'est plutôt que l'inflation est haute et les salaires n'augmentent pas.
Il augmente moins que l'inflation, ouais. D'accord. Donc en valeur réelle, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'inflation, alors il y a beaucoup de choses, l'inflation peut être causée par beaucoup de choses différentes, des augmentations des prix de l'énergie, mais quand on a cette augmentation des prix, on va avoir une augmentation assez générale, on va avoir une augmentation du prix aussi de vente pour les entreprises. On voit qu'il y a certains secteurs d'ailleurs qui ont même augmenté leurs marges pendant la période d'inflation. Donc on a bien ce mécanisme-là. Et donc si les salaires augmentent moins que l'ensemble des prix, eh ben, par rapport à ce qu'on appelle la valeur réelle du salaire, du contrat de travail, elle diminue.
Mais il faut remarquer que c'est un choc d'inflation importé, c'est-à-dire un prélèvement de pouvoir d'achat sur l'ensemble de l'économie, qui venait d'abord sous forme de hausse des prix énergétiques. Et donc, du coup, forcément, la hausse des salaires a été un peu plus lente que celle des prix. Et toutes les entreprises n'ont pas pu répercuter ces hausses. Ça dépend beaucoup des secteurs. Côté industriel, on a eu des capacités de hausse, notamment qu'on avait des prix mondiaux qui augmentaient assez rapidement à répercuter les hausses. Côté services, ça a été beaucoup plus modéré.
Allez, d'où est-ce qu'il y a quelque chose de culturel en France autour du salaire minimum ? Est-ce qu'il y a un dogme, cette idée que parce qu'il y a inflation, ça doit se répercuter sur le salaire minimum ? Ça a provoqué, je l'ai dit, 8 hausses depuis 2021 et peu, ou en tout cas, enfin pas même selon Clément Carboni qui évoque des baisses de salaire, d'augmentation des autres salaires. Alors c'est sanctuarisé le SMIC en France ?
Le dogme, il n'est pas du tout sur la sanctuarisation du SMIC. Le dogme, il est sur ce qu'on appelle la modération salariale, qui est en réalité une politique de compression salariale à laquelle on assiste depuis les années 80 en France, mais aussi en Europe en général. Et donc, voilà, c'est-à-dire que pourquoi on a ce que certains appellent une smicardisation, c'est bien parce que les autres salaires n'augmentent pas aussi rapidement que le pouvoir. Enfin, voilà, le pouvoir d'achat des salaires n'augmente pas rapidement. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la survenue de l'inflation, c'est finalement le révélateur d'un conflit de répartition, c'est-à-dire le fait que la part des salaires en France, mais aussi en Europe, a considérablement diminué depuis les années 80. Ça veut dire aussi que la part des profits dans la valeur ajoutée a considérablement augmenté. Et l'inflation, elle est vraiment le révélateur de ça. C'est-à-dire que avec l'inflation, les profits se sont maintenus. Ils ont même augmenté dans certains secteurs. Et ce qui a été vraiment attaqué par l'inflation, c'est les salaires. Et, pourquoi est-ce que c'est si important que le SMIC augmente en même temps que l'inflation? C'est parce que c'est précisément les salariés du bas de l'échelle qui sont les plus touchés par l'inflation. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont les dépenses contraintes les plus élevées et puis ceux pour lesquels les dépenses contraintes ont le plus augmenté depuis le début des années 2000. C'est ce qu'avait montré une étude de France Stratégie, ce qui est aussi un élément d'explication du mouvement des Gilets jaunes.
Mais les salariés qui sont juste au-dessus, en bas de l'échelle, comme vous dites, sont pénalisés par cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de souplesse ?
Alors, il faudrait les augmenter eux aussi.
Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de souplesse et qu'il n'y ait pas cette automaticité d'automatisation, je ne sais pas comment on peut le dire, d'un SMIC indexé sur l'inflation et que ce ne soit pas systématiquement, à chaque évolution de l'inflation, une augmentation du SMIC et que
les
salaires qui sont juste au-delà puissent en bénéficier.
L'indexation, elle est essentielle. D'accord. L'inflation, il n'y a pas de boucle prix-salaire. C'est pas une inflation salariale. Donc, on n'a pas de problème lié à la revalorisation du SMIC. Par contre, on pourrait très bien revenir en France à des échelles mobiles de salaire avec une revalorisation aussi des plus bas salaires pour éviter qu'ils se fassent rattraper par le SMIC. Peut-être pas sur le modèle de la Belgique où tous les salaires, y compris les très hauts salaires, augmentent. Je dirais l'urgence n'est pas d'augmenter les hauts salaires puisque c'est les moins touchés par l'inflation. Mais qu'on augmente non seulement le SMIC mais aussi les bas salaires avec une échelle qui reste à construire, ça paraît essentiel.
En tout cas, c'est certain que ça bloque certainement pas les hauts salaires, vous avez raison, mais les salaires situés légèrement au-dessus du SMIC. Je vais citer, et je vais me tourner vers vous, Olivier Roudoulès, votre étude. Plus d'un tiers des PME-TPE françaises, donc c'est petites et moyennes entreprises et très petites entreprises françaises, ce sont les entreprises de moins de 250 salariés en tout, donc plus d'un tiers, 34% exactement, qui se disent affectées par les hausses du salaire minimum. Donc c'est un baromètre BPI France, le Lab, réalisé avec Rexecode, dont vous êtes le directeur des études.
Absolument. Donc en fait, dans cette étude, on a voulu voir dans quelle mesure les chefs d'entreprise étaient affectés. On a commencé par leur demander comment ils voyaient la progression des salaires en 2024 et aussi la progression des prix. Et par rapport à 2022, on a vu qu'il y a eu une modération de part et d'autre, c'est-à-dire dans un contexte où la demande a plutôt fléchi, s'attendent à des hausses plus modérées des prix et des salaires, mais des salaires qui augmenteraient plus fortement que les prix. Et ensuite, effectivement, il y a une part importante des chefs d'entreprise qui sont concernés par ces hausses de SMIC. Certains ont rattrapé, placent des mesures de rattrapage, d'autres y songent. Beaucoup aussi ne sont pas concernés dans notre étude, on a à peu près la moitié. Ensuite, ça dépend de l'échantillon. Et je pense que c'est un sujet qui montre qu'il y a une forte hétérogénéité dans les situations des entreprises, c'est-à-dire un patron, il va pouvoir partager la valeur qu'il a créée, de certaine façon. Certains ont été en mesure de le faire même de manière très tôt. Certains chefs d'entreprise qu'on peut interroger nous disent voilà, on a suivi exactement parce qu'on est dans des contextes où on n'a pas de problème pour répercuter les hausses de coûts sur les prix parce qu'on est dans une situation très favorable. Et d'autres sont beaucoup plus ténus. Donc ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Après, si on parle sur plus longue période, parce que quand on regarde la façon dont le partage de valeur s'est fait, il faut quand même, effectivement, dans les années 80, il y a eu un partage qui a été déformé, aussi dans un contexte qui était du post-choc pétrolier, aussi de forte hausse des cotisations sociales. Mais depuis une quarantaine d'années, en France, depuis 30 ans en France, plutôt 1990-2024, on a une forme de stabilisation de la part des salaires de la valeur ajoutée. Et on a des dividendes qui sont juste à leur niveau de moyenne longue période, autour de 2,5% de valeur ajoutée. Donc la France, justement, se distingue de beaucoup de pays par un partage de la valeur ajoutée qui est relativement stable et qui, même ces dernières années, a plutôt progressé en faveur des salariés. Donc ça, je pense, c'est un élément comparable. Après, avec beaucoup, bien sûr, d'hétérogénéité entre secteurs, entre entreprises, parce que tous ne sont pas logés à la même enseigne.
Clément Carbonnier, je voudrais vous faire réagir à cette étude qu'évoque Olivier Redoulès. Est-ce que là, on n'est pas à un tournant avec ces hausses automatiques du SMIC qui clairement bloquent les hausses des autres salaires?
Je conteste ce point-là. C'est-à-dire que là, il y a...
Alors, c'est une étude. Hein. Et les hausses de salaire, près des trois quarts des PME l'an dernier et TPE souhaitaient augmenter leurs salariés. C'est un taux qui, ça c'est dans votre étude aussi, tombe à 64%, donc moins des deux tiers.
Le fait que vous ayez des patrons de PME qui disent qu'elles auraient aimé augmenter les salaires, mais qu'elles ne l'ont pas fait à cause du SMIC, c'est un point. Ensuite, il y a un autre point. Est-ce que c'est la réalité que le SMIC fait baisser les salaires au-dessus? Je pense que c'est un autre point. Et là, pour le coup, quand on a des études statistiques qui regardent les éléments, on a plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'une hausse du SMIC a plutôt tendance à faire augmenter légèrement, très peu. Et effectivement, comme l'a dit Anne-Edou, il n'y a pas de question de prix salaire, mais ça ne fait pas baisser les salaires au-dessus. Ça les fait plutôt augmenter moins vite, mais ça les fait augmenter. Le point qui semble très, très important là-dessus, c'est que pourquoi les salaires au-dessus baissent, ce n'est pas parce qu'il y a le SMIC, c'est parce qu'effectivement, on a depuis un certain moment une politique de modération salariale, une politique qui vise à baisser la capacité des salariés à négocier des augmentations de salaire. On a une multiplication, et là depuis quelque temps, une multiplication de ces mesures-là, on a des affaiblissements de la négociation collective, et évidemment, si on individualise la négociation, on fait perdre du pouvoir aux salariés dans la capacité à accéder à ce partage de la valeur. Quand on diminue drastiquement la protection d'assurance chômage, on fait diminuer également la capacité des salariés à négocier un partage de la valeur, etc. Donc on a un ensemble de lois qui ont diminué drastiquement la capacité des salariés à négocier des augmentations de salaire, à négocier le partage de la valeur. Le résultat, on l'observe, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les salaires qui ne sont pas protégés par le SMIC n'arrivent pas à obtenir ce point-là, et donc ces salaires diminuent en valeur réelle, augmentent moins que l'inflation. Mais c'est pas du fait du SMIC, c'est du fait de la baisse de la protection de ces salaires-là. Et donc, aller plus loin en disant, du coup, on va enlever aussi la protection en dessous, eh bien, le seul effet, c'est qu'effectivement, on aura une désmicardisation par une baisse des salaires. Et donc, en fait, mais ça ne va pas faire augmenter les salaires plus hauts, ça va juste faire augmenter les salaires les plus bas, comme les salaires au-dessus ont augmenté. Il faut vraiment pas confondre les causes de ce qu'on observe actuellement.
Il faut distinguer en fait les facteurs, la situation conjoncturelle d'une facteur plus une situation plus structurelle. C'est-à-dire effectivement à court terme, en fait, on n'a pas observé de boucle prix-salaire, mais cela étant, quand une entreprise a une trésorerie, un budget de rémunération contraint, forcément, elle va faire le choix si elle doit augmenter une part relativement importante de sa masse salariale pour suivre les hausses du SMIC, parce que c'est la réglementation qui s'applique. Il y aura moins de budget pour le reste, et ça, c'est ce qu'on observe effectivement dans les salaires de base, c'est-à-dire les bas salaires étaient bien protégés, les autres un peu moins. Cela étant, ensuite, il faudrait regarder les primes et par ailleurs. Par ailleurs, toujours dans un sujet conjoncturel, bon, on parle du salaire réel qui a baissé effectivement de quelques points de pourcentage, par exemple si on se place par rapport à 2019, mais il faut mettre ça en évidence, comment dire, en comparaison avec la productivité du travail qui a aussi fortement baissé. Et sur longue période, ce qu'on observe en France, c'est une quasi-égalité entre d'un côté salaire réel et productivité. Donc là, le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, c'est un gap de plusieurs points de pourcentage où le salaire réel a pris de l'avance sur la productivité. Et toute la question, c'est comment on va résorber ce gap. Est-ce qu'il doit se faire, comme par le passé, par exemple, de la crise de 2008-2009, par des destructions d'emplois, ou est-ce qu'on va avoir plutôt du tassement des salaires?
Mais quelle question naïve, est-ce qu'on ne dope pas la productivité en augmentant les salaires?
C'est pas évident. On a essayé en France, on a fait plusieurs fois de nombreuses hausses de SMIC. Ça n'a pas forcément, ça s'est pas forcément traduit par des hausses de productivité, ou alors par de la productivité par le bas, en sortant du marché du travail, les gens qui étaient le moins productifs.
Allez, d'où est-ce que vous comprenez les inquiétudes des patrons de PME recueillies par Olivier Rodoulès dans son étude, quand lui, il évoque justement cette masse salariale,
mais
effectivement, qui n'est pas illimitée et qui va, du coup, prioritairement vers la hausse du SMIC.
J'ai trouvé intéressante cette note, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup insisté sur le fait que 42% des PME-TPE anticipent une réduction de leur marge et qu'effectivement, elles craignent les hausses de salaire. Mais je retiens aussi une autre inquiétude, c'est les inquiétudes relatives à la demande actuelle ou future qui progresse aussi et qui concerne la moitié des dirigeants. Or, la demande, on sait bien qu'elle dépend du pouvoir d'achat et qu'elle est, en France et dans toute l'Europe, tirée par les salaires. Hein. Et donc, voilà, il peut y avoir des contradictions, c'est-à-dire c'est un point de vue où à la fois on peut avoir peur d'une baisse du pouvoir d'achat et peur de la hausse des salaires. Et je dirais que, de ce point de vue-là, vous avez évoqué les disparités sectorielles. Elles sont effectivement très grandes. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où on peut augmenter les salaires sans problème, et puis d'autres où c'est plus compliqué, et où peut-être, s'il y a des problèmes de trésorerie, ça renvoie à d'autres types de politiques ou d'aides. Hein. Voilà. Donc je pense que il ne faut pas oublier cet autre aspect de l'étude qui est la question de la demande.
Tout dépend de comment, par quel biais on prend le problème finalement.
Oui, y a les deux en fait. Les deux sont pertinents, je pense. Et puis pour revenir sur la productivité, je dirais que sur la productivité, c'est une notion et un indicateur très problématique. Je pense d'abord la productivité dans les services, parce que précisément elle dépend des salaires. C'est la productivité apparente du travail. Et quand on augmente les salaires, ça augmente la productivité mesurée. Et puis, par ailleurs, on a ces problèmes de mesure de la productivité qui sont que il y a la difficulté. On parle de productivité du travail, mais on ne sait pas très bien quelle est la part des profits. Et il y a les biais de mesure de productivité qui sont liés au voyage des profits et au prix de transfert qu'on fait. L'Irlande en 2014-2015, où il y a eu une hausse spectaculaire du PIB, de la productivité et des exportations, qui était essentiellement due au biais des profits, c'est-à-dire que les entreprises allaient cacher leurs profits en Irlande pour être moins taxées. Donc on a vraiment des problèmes sur nos indicateurs. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de ces problèmes, mais sur la productivité, on a une question. Et puis, je dirais, dernier point, on a aussi à réfléchir, alors c'est quelque chose de plus large que les salaires et la productivité, à la transition écologique, où les objectifs qu'on devrait avoir sont beaucoup plus complexes que simplement la croissance, la hausse de la productivité. Il faut inclure des objectifs verts, et ça va nous obliger, si on arrive à le faire, à repenser le travail, les salaires, le partage de la valeur.
Mais ça va être compliqué d'augmenter les salaires dans un tel contexte. avec un tel objectif.
Alors les bas salaires, si, il faut quand même obtenir l'adhésion des plus bas revenus à la transition écologique. Les gilets jaunes nous l'ont rappelé et je pense que pour obtenir cette adhésion, on ne peut pas laisser derrière les bas salaires.
RFI, le débat du jour.
Faut-il maintenir un service minimum ? La question qu'on pose ce soir, alors qu'en France, il n'y a jamais eu autant de smicards qu'aujourd'hui, un peu plus de 3 millions de personnes, on l'a dit en ouverture de cette émission avec vous, Olivier Redoulès, directeur des études de l'Institut d'études économiques Rexecode, qui a co-réalisé une enquête sur le sujet, Clément Carbonnier, professeur d'économie à l'Université Paris 8, co-directeur de l'axe politique socio-fiscale du LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, et Anne Edoux, maîtresse de conférences d'économie au CNAM, qui est le Conservatoire national des arts et métiers, membre des économistes atterrés. Merci à vous trois. On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proches du SMIC toute leur carrière. Ça, c'est Gabriel Attal qui l'a dit dans sa déclaration de politique générale. Et il appelle, ça c'est un mot qui était en vogue en ce début d'année en France, à désmicardiser le pays. Vous en pensez quoi, Clément Carbonnier ?
Eh ben, ça dépend ce qu'il entend par désmicardiser. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si désmicardiser, c'est faire en sorte que le plus de gens possible aient des salaires qui augmentent au-dessus du SMIC, c'est effectivement une bonne chose. Et pour ça,
les gens sortent du SMIC.
Sortent du SMIC par le haut, et ça, c'est bien. Mais ça nécessite de faire en sorte de donner des structures à la négociation du partage de la valeur qui permettent effectivement ces augmentations de salaire. Si de l'autre côté, ça a été un peu évoqué par différentes manières, l'idée c'est de dire on va baisser le SMIC, comme ça les gens, bah, ils n'auront pas plus de revenus, mais ils ne seront pas au SMIC parce que le SMIC sera encore plus bas. Et finalement, quand on parle d'arrêter le SMIC ou d'arrêter de l'indexer, c'est bien ça l'idée.
Ça donne plus la percuter automatiquement.
Oui, les hausses. Dans ce cas-là, effectivement, on aurait peut-être des gens, moins de gens au SMIC, mais on aurait des gens plus pauvres. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que le but, c'est juste de dire on veut que les gens aient des salaires différents les uns des autres ? Et dans ce cas-là, effectivement, on peut descendre les salaires jusqu'à zéro et on aura plus de différence entre les salaires. Ou est-ce que ce qu'on veut, c'est que les gens aient des meilleures conditions de vie ? Et dans ce cas-là, c'est pas en enlevant le SMIC qu'on va faire augmenter les salaires.
Mais ça veut dire plus d'aide publique, en gros, clairement. Parce qu'aujourd'hui, pour que nos auditeurs comprennent bien, le fait d'indexer les hausses du SMIC par rapport à l'inflation, ça fait que les salaires qui sont juste au-dessus se retrouvent quasiment au niveau du SMIC et eux ne sont pas augmentés.
Oui, mais la question, pas forcément plus d'aide publique, plus un meilleur partage, un partage de la valeur produite plus favorable aux salariés.
Et pour revenir... D'accord, donc moins aux actionnaires, concrètement, ça veut dire quoi ?
Oui, okay. C'est ça. Et ce qu'il faut bien voir sur la question des TPE-PME, Anne-Edouard a répondu en partie, donc effectivement, sur la question, attention, il y a une partie des PME qui vendent d'une certaine manière au marché de services et de biens français. Et que ces gens-là, en fait, si on augmentait le niveau de vie et donc la demande des gens, en fait, ils seraient gagnants. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toute une partie des PME aussi qui sont, en fait, en sous-traitance de grands groupes et qui sont contrôlés par ces grands groupes. Et il faut bien voir que si les salaires augmentaient, en fait, c'est les grands groupes qui les sous-traitent qui en paieraient. Et en fait, le prix qui est négocié entre ces PME et ces grands groupes dépend du coût. Si on garde des salaires bas, ça bénéficie pas à ces PME sous-traitantes. Ça bénéficie à leurs commanditaires. Et donc, de la même manière, réciproquement, si on augmentait pour toutes, sans possibilité de faire du dumping, ça forcerait les donneurs d'ordre à les payer. Et donc, effectivement, les actionnaires des plus grands groupes.
Olivier Redoulès, je vois que vous levez la main.
Je pense qu'en fait, on peut effectivement tous espérer qu'il y ait plus de pouvoir d'achat pour tout le monde. Mais on a une réalité un petit peu macroéconomique.
Il dit pas plus de pouvoir d'achat, il parle meilleur partage de la richesse.
Meilleur partage à richesse, mais le partage à richesse, aujourd'hui, se fait bien. Il n'y a pas vraiment de souci particulier de partage de la richesse.
Ça fait rire Clément Carbonnier.
Le souci, par exemple, son idée de dire, voilà, les grands groupes, ils vont absorber les hausses de salaire des PME. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça, de la pratique. Les PME, elles sont mises en concurrence à l'échelle mondiale. Leurs clients ne sont d'ailleurs pas que des grands groupes français. Et cela étant, en fait, si vous augmentez juste les salaires de manière purement administrée, ce qui est un petit peu déjà le cas du SMIC, mais qui se tient pour une portion de l'économie et qui pèse surtout sur les services, vous allez avoir juste, en fait, vous allez juste tuer de l'emploi, vous allez juste tuer de la base industrielle. Et donc, vous gagnerez en salaire ce que vous perdrez en emploi. Après, bien sûr, sur le constat de la demande qui flanche, effectivement, c'est un fait. Cela étant, en fait, ce n'est pas parce que vous donnez plus de salaire aux ménages qui vont forcément consommer des PME ou des TPE qui doivent verser plus de salaire. Et le vrai sujet, c'est qu'en fait, ça va juste se traduire par plus d'importations et par moins de demandes. Donc, en fait, il y a une question vraiment de bouclage macroéconomique dans tout ça. Bien sûr, on voudrait doper plus de salaire, mais ça ne peut pas juste se faire de manière administrée. Le sujet, peut-être un dernier point, sur le niveau du SMIC. On a un des SMIC en rapport au salaire médian qui est sans doute la variable la plus vraie en termes de mesure du salaire de marché de l'économie et de notre niveau de vie. On a le niveau de SMIC le plus élevé par rapport au salaire médian. Donc on a vraiment, par rapport à d'autres pays européens, donc on a vraiment en fait fait le choix de protéger, ce qui est un choix qui est en fait un choix politique, qui est un choix démocratique, mais ça se fait forcément à un moment donné au détriment d'autre part de la société.
Ce qui n'est pas votre choix, il ne faudrait pas qu'il y ait les hausses automatiques du SMIC selon vous ?
Je pense qu'en fait il faudrait donner plus de latitude aux partenaires sociaux pour fixer les salaires. C'est-à-dire en fait, le SMIC tel qu'il est construit, tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est d'une certaine façon, on confie aux entreprises, on attribue aux entreprises la mission de la lutte contre la pauvreté et de l'égalisation.
Vous avez touché du
de la redistribution.
Le mot, alors le mot évoqué par Clément Carbonnier, si on touche aussi à l'automatisme des hausses du SMIC, on risque pas
SMIC,
de créer
SMIC,
plus de pauvreté.
Non, mais un SMIC qui est là pour lutter contre la pauvreté, il pourrait être plus bas. Ce n'est pas à son niveau actuel. Là, on est à un niveau de salaire. Donc ça se traduit forcément par un tassement de toute échelle salariale qui se voyait d'ailleurs, le tassement de l'échelle salariale, on l'avait déjà en 2017, 2018, 2019. Là, il est plus fort parce qu'on a ces hausses de SMIC qui ont, en grosso modo, précédé la capacité des entreprises à augmenter les salaires. Mais on a quand même un sujet de tassement qui fait qu'il y a, au fond, ensuite, qu'il y a tout un tas de problèmes, notamment en bridant, en quelque sorte, le dialogue social au sein des branches qui se retrouvent coincées avec un SMIC trop élevé par rapport à leur minima.
Olivier Roudoulès qui finalement nous vante le modèle français du salaire minimum par rapport à nos voisins européens à Nedoui qui renvoie finalement au dialogue social le fait de revoir ces hausses systématiques du SMIC et cette indexation par rapport à l'inflation.
Alors d'abord plusieurs choses hein, sur la hausse du SMIC. On a des tas d'évaluations dans les autres pays d'Europe qui montrent que la hausse du salaire minimum ne crée pas de chômage. Il y a guère qu'en France, ça fait de nous la risée des Allemands. Il n'y a qu'en France qu'on croit que la hausse du SMIC détruit des centaines de milliers d'emplois. Deuxième chose, les salaires sont plus élevés partout dans les secteurs exportateurs que dans les autres. Et donc, on n'est pas du tout sur un modèle en Europe où la compétitivité repose sur les bas salaires. Et par ailleurs, notre salaire minimum en France est plus bas que celui d'un certain nombre de pays, pas seulement le Luxembourg, mais l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, enfin voilà, tous ces pays-là sont soit un peu au-dessus de nous, soit à notre niveau. Donc on n'est pas du tout mal positionné par rapport à nos voisins européens qui sont nos principaux partenaires commerciaux. Et puis enfin, je dirais l'un des problèmes du SMIC et des dérégulations, ce qu'on a appelé les dérégulations du marché du travail, c'est-à-dire le développement du temps partiel, du CDD, de l'intérim, etc., ça fait que le SMIC ne permet pas du tout de garantir un minimum qui permet de vivre de manière satisfaisante à une famille. On a énormément de travailleurs pauvres en France, et d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes a aussi été interprété comme un mouvement de travailleurs pauvres.
Peut-être de nuances sur ça.
Rapidement, parce qu'il
aurait fallu. Oui, vous parlez des niveaux de SMIC des autres pays, mais par rapport à des niveaux de vie, des PIB par habitant qui sont plus élevés. Par ailleurs, le SMIC se retrouve dans le prix que les gens paient. Donc, au fond, dans le prix des services, le prix que les gens paient. Donc, en fait, dans le niveau de vie, il se retrouve d'un côté peut-être de leur salaire,
vous
mais se découvrent aussi de leur prix.
Vous ne pouvez pas répondre sur les niveaux de vie qui sont des questions d'inégalité et qui n'ont rien à voir avec la compétitivité des entreprises. Le SMIC, c'est ce qui est pertinent.
Bon, hein, le débat est là, sur le point du rapport avec le salaire médian, si le SMIC est plus élevé dans les autres pays, c'est bien que le salaire médian est plus faible, et donc c'est bien cette question de partage de la valeur qui est problématique en France.
Vous n'êtes pas d'accord et c'est intéressant. En tout cas, on a bien compris qu'il y avait aussi cette question de la productivité et comment aligner les hausses de salaire en fonction de la productivité. Merci beaucoup à vous trois, Olivier Roudoulès, Clément Carbonnier et Anne Edou. C'est la fin de ce débat du jour. Merci à Florence Ponce à la préparation. Restez à l'écoute de RFI.